La Banque mondiale affirme que l'extrême pauvreté est passée de 47% de la population mondiale en 1981 à environ 10% aujourd'hui. Mais cette vision optimiste est-elle totalement fiable? Où existe-t-il des nuances méconnues derrière ces chiffres impressionnants?
Derrière cette chute spectaculaire, il y a des débats méthodologiques essentiels. La Banque mondiale utilise un seuil de pauvreté fixé à 3 dollars par jour, ajusté en parité de pouvoir d'achat. Ce mode de calcul permet de comparer les pays, mais il ne tient pas compte du coût réel pour satisfaire les besoins vitaux selon le contexte local.
Pour mieux comprendre, on pourrait comparer cette méthode à un thermomètre universel. Il donne une température globale, mais néglige les microclimats locaux. Justement, des chercheurs ont récemment proposé d'autres façons d'évaluer la pauvreté extrême. En quoi ces approches diffèrent-elles concrètement?
C'est une excellente analogie. La nouvelle méthode appelée seuil de pauvreté des besoins fondamentaux, BNPL, évalue si le revenu d'une personne suffit à couvrir les biens essentiels dans chaque pays, comme la nourriture, le logement ou le carburant. Ainsi, deux individus gagnant 3 dollars par jour peuvent vivre des réalités totalement opposées selon le prix du pain ou du loyer dans leur pays.
Voilà qui remet en question les statistiques globales. Entrons dans le détail. Que montrent les données issues de cette nouvelle approche concernant l'évolution réelle de l'extrême pauvreté depuis les années 1980?
Selon les relevés BNPL, la situation est bien moins encourageante. Entre 1980 et 2011, le taux mondial d'extrême pauvreté n'a baissé que de 6 points, passant de 23% à 17%, et le nombre de personnes concernées a même augmenté, atteignant 1,2 milliards. Une histoire beaucoup plus complexe que le récit officiel.
Pour approfondir, pourquoi la méthode PPA, utilisée par la Banque mondiale, pose-t-elle problème lorsqu'il s'agit de mesurer la pauvreté réelle?
La PPA ajuste les revenus en fonction des différences de prix entre pays, mais elle ne capte pas la diversité des besoins. Par exemple, 3 dollars permettent d'acheter bien plus en Inde qu'au Nigeria, mais le panier de biens essentiels diffère radicalement. Or, l'accès à l'eau potable ou au logement décent peut coûter bien plus cher dans certains contextes.
En somme, il s'agit d'une sorte de moyenne mondiale qui masque les inégalités locales. Si l'on appliquait la BNPL dans un pays en pleine inflation, le seuil de pauvreté grimperait, révélant une réalité sociale bien plus dure. Peut-on alors dire que la mesure PPA sous-estime la vraie amplitude de l'extrême pauvreté?
Absolument, et c'est ce que démontrent diverses études récentes. La PPA donne l'illusion d'un progrès uniforme, alors que la pauvreté, selon la BNPL, recule bien plus lentement, voire stagne. Cela signifie que des millions de personnes restent incapables de répondre à leurs besoins essentiels, même si elles franchissent le seuil PPA.
Cela a-t-il des conséquences sur les politiques internationales de lutte contre la pauvreté?
Oui, car de nombreux programmes d'aide et d'objectifs de développement sont calibrés sur la statistique PPA. Or, si ce référentiel est biaisé, on risque de sous-estimer l'ampleur des efforts à fournir et donc de passer à côté de populations vulnérables invisibilisées par les chiffres.
Poursuivons avec un indicateur crucial, l'insécurité alimentaire. Les statistiques de la FAO montrent une hausse sensible du nombre de personnes mal nourries depuis 2014. Que révèle-t-elle sur la dynamique contemporaine de la pauvreté?
En effet, selon la FAO, la part de la population mondiale souffrant d'insécurité alimentaire est passée de 20,1% à 30% entre 2014 et 2022. Plus grave encore, l'insécurité alimentaire grave, c'est, à dire la faim chronique, touche désormais plus d'une personne sur 10. Ce phénomène reflète une dégradation accélérée de la situation malgré les progrès apparents mesurés par la PPA.
C'est alarmant, d'autant que l'accès à la nourriture est central dans la méthode BNPL. Peut-on alors supposer que la pauvreté extrême, loin de reculer, aurait même progressé depuis 2011?
Il est très probable que la tendance soit à la stagnation, voire à la hausse, selon ce critère. La hausse du prix des denrées de base, la pandémie de Covid-19 et les conflits géopolitiques récents ont aggravé la précarité. Par exemple, une étude récente montre que le nombre de personnes en insécurité alimentaire grave a augmenté de 150 millions en seulement 8 ans.
Cela remet en cause l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment la réduction de moitié de l'extrême pauvreté entre 1990 et 2015. Peut-on considérer que cet objectif n'a pas été atteint?
Selon la BNPL et les données sur la faim, l'objectif n'a probablement pas été atteint. En réalité, la pauvreté structurelle persiste et les progrès officiels masquent des vulnérabilités profondes, en particulier dans les pays du Sud soumis à des chocs économiques et à des politiques d'ajustement structurel.
Venons-en aux racines de la question. L'extrême pauvreté est-elle vraiment inévitable? Ou s'agit-il d'une conséquence de choix économiques et sociaux?
Historiquement, la pauvreté de masse n'est pas la norme. Les recherches sur les salaires réels depuis le XVe siècle montrent que les sociétés parviennent souvent à subvenir aux besoins élémentaires de leurs membres, sauf en cas de crise majeure comme la guerre ou le colonialisme, qui déstabilisent l'accès aux ressources.
Cela suggère que les politiques publiques peuvent jouer un rôle déterminant. Des exemples concrets montrent-ils qu'on peut réduire la pauvreté même à faible PIB?
Oui, plusieurs pays ont réussi à faire reculer la pauvreté extrême grâce à des stratégies ciblées. Contrôle des prix, approvisionnement public, investissement dans l'éducation et la santé. Par exemple, le Vietnam a drastiquement réduit la pauvreté en combinant réformes agraires et politiques de redistribution.
Enfin, l'économie mondiale a-t-elle les moyens d'éradiquer la pauvreté si on changeait de modèle?
Tout à fait. Les études montrent que la production mondiale actuelle permettrait d'assurer un niveau de vie décent à toute la planète, avec accès à la santé, au logement et à l'éducation. Le défi n'est donc pas la rareté des ressources, mais leur répartition et l'organisation institutionnelle des marchés.
En conclusion, pour garantir l'accès universel aux besoins essentiels, il faudrait repenser la façon dont nous produisons et distribuons les biens. C'est pas un problème technique, mais un enjeu de volonté collective et de justice sociale.